Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, chez Robin Dorcil et Morgane Guériac à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, la France en un seul cœur suite à l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Les terroristes ont été identifiés et sont toujours recherchés par les forces de sécurité françaises.
Au Nigeria, la secte islamiste radicale Boko Haram rase 16 villes et villages, faisant de nombreuses victimes.
République centrafricaine, l'ONU affirme qu'il y a eu nettoyage ethnique contre les musulmans, mais ne peut pas pour le moment parler de génocide.
La paix avant la levée des sanctions, avertissement de la chancelière allemande Angela Merkel à quelques jours d'un sommet important sur l'Ukraine.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Dans le nord-est du Nigeria, tout près du lac Tchad, Boko Haram a entièrement détruit 16 villes et villages au cours d'un nouveau raid. D'après les responsables locaux cités par l'AFP, le groupe islamiste armé les a incendiés. Baga, grand carrefour commercial qui abrite une base militaire importante, est tombé aux mains de Boko Haram le week-end dernier et compte parmi les villes détruites hier.
Et c'est dans ce contexte que le président nigérian Goodluck Jonathan a lancé sa campagne aujourd'hui à Lagos, fief de l'opposition. Il est candidat à sa réélection à la mi-février et son premier meeting intervient dans un climat politique tendu. Félix Yepassi Zambrou.
L'immense place Tafawa Balewa dans le centre de Lagos était bondée de militants vêtus de t-shirts verts, rouges et blancs, les couleurs du Parti démocratique populaire au pouvoir. Goodluck Jonathan, 57 ans, veut un second mandat pour, selon lui, terminer son programme de transformation du pays. Son rival, l'ex-général Muhammadu Buhari, âgé de 72 ans, a rétorqué que sous le mandat de M. Jonathan, le Nigeria est devenu champion des promesses non tenues. Les échanges seront encore plus acerbes à mesure qu'on se rapprochera du 14 février. La campagne démarre sur le chapeau des roues alors que Boko Haram semble être hors de contrôle. Une vingtaine de localités sont tombées aux mains des insurgés et les attaques sanglantes sont devenues presque quotidiennes dans le nord-est du pays.
Jour de deuil national en France au lendemain de la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo, journal satirique parisien. Pendant ce temps, la traque des suspects se poursuit. Claire Morin-Gibourg.
Une minute de silence a été observée aujourd'hui à midi à la mémoire des 12 journalistes, employés et policiers tués dans l'attaque. C'est dans ce contexte que les forces de l'ordre tentent de capturer deux des suspects. La police et la gendarmerie se sont déployées près de Villers-Cotterêts, à 80 km au nord-est de Paris, où ils ont été signalés. Saïd et Chérif Kouachi, deux frères nés à Paris et de nationalité française, âgés respectivement de 34 ans et 32 ans, avaient été repérés dans une station essence cagoulée et armée de Kalachnikov et de lance-roquettes apparents. Dans la voiture que les suspects ont abandonnée hier, un drapeau djihadiste et une dizaine de cocktails Molotov ont été retrouvés. Chérif est un djihadiste connu des services antiterroristes, déjà condamné pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. La radio de l'organisation État islamique a d'ailleurs qualifié de « héros » les auteurs de l'attaque. De leur côté, les représentants de la communauté musulmane de France appellent tous les imams à condamner la violence et le terrorisme lors de la prière de vendredi. Le Conseil français du culte musulman appelle également les citoyens de confession musulmane à rejoindre massivement la manifestation nationale prévue dimanche. La tension demeure extrêmement vive. Des lieux de culte musulmans ont fait l'objet d'attaques dans plusieurs villes du pays. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a condamné aujourd'hui avec la plus grande fermeté les violences des profanations dont font l'objet certains lieux de culte musulmans en France depuis l'attaque contre Charlie Hebdo.
Sachez aussi que moins de 24 heures après la tragédie de Charlie Hebdo, une policière stagiaire a trouvé la mort dans une fusillade aujourd'hui au sud de Paris. La victime est âgée de 20 ans. Une autre personne a été grièvement blessée dans cette attaque qui, pour le moment, n'a pas été formellement liée à celle contre la revue satirique française, selon les proches du dossier cité par l'AFP.
Une commission d'enquête de l'ONU affirme avoir découvert des preuves de nettoyage ethnique à l'encontre des musulmans en République centrafricaine, mais elle ne peut prouver qu'il y a eu génocide. Le rapport final de la commission, que cite l'agence Associated Press, suggère un bilan de loin supérieur aux 3000 à 6000 morts jusqu'ici mentionnés. Par ailleurs, les trois enquêteurs onusiens accusent et la Seleka et les Anti-Balaka de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Les pays ouest-africains frappés par le virus Ebola ont fait de gros efforts pour enrayer l'extension de l'épidémie, mais n'ont pas atteint les objectifs fixés au 1er janvier en matière d'éradication de la maladie. C'est ce qu'a déclaré hier l'Organisation mondiale de la santé. On fait le point avec Georges Léonard Sagnon.
Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les trois pays les plus touchés par la maladie à virus Ebola, avait un délai de 90 jours pour isoler et traiter tous les malades contaminés par le virus et pour assurer que les enterrements aient lieu d'une manière sécurisée dans 100% des cas. Ils n'ont pas pu respecter ce délai. En Guinée, le virus s'est répandu à travers le pays, selon l'OMS. L'agence onusienne relève par contre des efforts très importants dans certains domaines, notamment le nombre de lits mis à la disposition des personnes contaminées, soit 15 lits par cas au Libéria, près de 5 en Sierra Leone et 2 en Guinée. L'OMS a rappelé que les efforts pour atteindre les objectifs fixés le 1er octobre dernier allaient se poursuivre jusqu'à ce que l'épidémie ait été enrayée. Un récent bilan de l'organisation fait état de 20 747 personnes infectées et 8 235 mortes en un peu plus d'un an dues à Ebola. La grande majorité des cas ont été enregistrés au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, ce dernier pays étant le plus touché, avec près de 3000 morts.
La branche libyenne de l'organisation État islamique affirme avoir exécuté deux journalistes tunisiens portés disparus en Libye depuis le 8 septembre. Le groupe affirme avoir appliqué la loi d'Allah à leur encontre.
Mohamed Morsi sur le banc des accusés en Égypte. Le verdict dans l'un des trois procès de l'ex-président islamiste sera rendu le 21 avril. C'est ce que disent des sources judiciaires citées par l'AFP. Poursuivi pour incitation au meurtre de manifestants, il encourt la peine de mort. Mohamed Morsi est jugé avec 14 autres dirigeants des Frères musulmans pour leur responsabilité présumée dans la mort de 10 manifestants le 5 décembre 2012 devant son palais présidentiel.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, nouveau bilan dans l'attentat à la voiture piégée contre une académie de police mercredi au Yémen. On parle maintenant de 40 morts et 71 blessés. Ces chiffres ont été rapportés aujourd'hui par l'agence officielle Sabah. Al-Qaïda est pointé du doigt, mais un dirigeant d'Ansar al-Sharia lié au réseau terroriste a nié toute responsabilité dans cet attentat que les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU ont vivement condamné.
L'Union européenne a fait état aujourd'hui de signes positifs limités de la part de la Russie dans le conflit en Ukraine, à quelques jours du sommet envisagé à Astana, au Kazakhstan. Un sommet qui doit réunir les présidents de l'Ukraine, de la Russie, de la France et la chancelière allemande Angela Merkel. Toutefois, souligne l'AFP, Madame Merkel a exclu toute levée des sanctions européennes contre Moscou, sous la mise en œuvre de l'ensemble des accords de Minsk, signés en septembre pour un règlement pacifique du conflit. À Washington, la porte-parole du département d'État, Jennifer Psaki, a prévenu que les sanctions ne pourraient être levées que si des progrès tangibles étaient enregistrés sur le terrain.
En Indonésie, les efforts des autorités s'intensifient pour le recouvrement de l'épave de l'avion d'Air Asia abîmé en mer le 28 décembre dernier. Des plongeurs ont atteint la queue de l'avion, mais la visibilité était inférieure à 1 mètre. Ils sont donc seulement arrivés à retirer divers débris, a déclaré dans la matinée le directeur de l'agence de recherche et de secours, Bambang Solistio, cité par l'AFP. Aucun des 162 passagers et membres d'équipage n'a survécu. Seulement 43 corps ont été repêchés jusqu'à présent.
Une première dans le conflit syrien, aucun mort de guerre n'a été recensé hier. Cela n'avait jamais eu lieu depuis 3 ans. La raison de cette trêve, une violente tempête de neige a empêché les combats, bombardements et raids aériens, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La nature a bien son mot à dire de temps en temps.
C'est à nouveau le moment de l'année où se tient ici aux États-Unis, du 6 au 9 janvier, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, CES, la grand-messe du high-tech. C'est l'une des plus grandes expositions dans le monde où les dernières innovations et gadgets sont dévoilés. Le reportage d'Ahmed Beravan, présenté ici par Bagassi Koura. On essaiera d'avoir ce reportage un peu plus tard dans l'émission. Disons que toujours aux États-Unis, le président Barack Obama a choisi la ville de Phoenix dans l'Arizona pour parler d'une série de mesures qu'il compte dévoiler dans son prochain discours sur l'état de l'Union. Ces mesures visent entre autres à ouvrir à plus d'Américains l'accès à la propriété foncière, notamment l'achat d'une maison. Voilà pour les nouvelles.
C'est l'heure de la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec Jean-Roger Billon. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo s'est félicité aujourd'hui à Kinshasa des performances économiques réalisées par la RDC sans le soutien du Fonds monétaire international.
En janvier 2014, M. Matata avait soutenu que la RDC pouvait passer un peu de temps sans l'assistance du FMI, comparant celui-ci à un médecin de la maladie économique à qui l'on recourt en cas de maladie. Autrement dit, le Congo se porte bien.
Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait un taux de croissance de près de 9% en 2014 et un taux d'inflation de 1%, ce qui est une performance exceptionnelle depuis près de 40 ans.
Le premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, propos recueillis par nos confrères de Radio Top Congo, Kinshasa. Kinshasa prévoit donc un taux de croissance de 10,4% pour la RDC en 2015, alors que le FMI table sur un ralentissement de la hausse du produit intérieur brut congolais à 8,5% cette année. Cependant, le premier ministre estime que les relations entre la RDC et le FMI sont aujourd'hui excellentes.
Le Vatican a alloué 3 millions d'euros à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée.
Les fonds seront mis à la disposition de structures soutenues par l'Église pour l'acquisition de fournitures sanitaires de première nécessité, le transport des malades et la rénovation des structures. Une partie des fonds sera destinée aux habitants des zones soumises à quarantaine et à l'aide aux familles affectées ainsi qu'aux orphelins de l'épidémie.
Sénégal embellit des prix à la consommation.
D'après un communiqué de la direction de la prévision et des études économiques basée à Dakar, les prix des denrées de première nécessité ont baissé à la fin de l'année 2014 de 0,9% après une hausse de 0,8% au mois d'octobre.
Voilà pour la Minute Éco de ce jeudi. Merci Jean-Roger Billon.
Nous enchaînons tout de suite avec la page sport présentée par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Cannes 2015, on connaît les 23 du Burkina Faso.
Oui, oui, et ce sera Jonathan Mpitropa, meilleur joueur de la Cannes 2013, et Alain Traoré, de retour donc de blessure. Ces deux donc vont conduire le Burkina Faso à l'événement du football en 2015 sur le continent. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui en tout cas Paul Put, le sélectionneur de cette équipe. Le Burkina Faso finaliste de l'édition 2013 a entamé sa préparation en Elspruit en Afrique du Sud. Deux matchs amicaux sont prévus contre le Swaziland le 10 janvier et le Botswana le 13 janvier. À la CAN 2015, les étalons évolueront dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, le pays hôte donc, le Gabon et le Congo-Brazzaville.
Alors quelles sont les chances du Burkina selon toi?
Elles sont très, très, très élevées.
Adebayor sur le marché?
Oui, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2015 avec Tottenham, l'attaquant international togolais Emmanuel Adebayor, âgé de 30 ans, aurait été placé sur la liste des transferts. Et selon le Time, cité par Foot Africa, l'ancien Messin et Monégasque pourrait partir en Major League Soccer. D'ailleurs, comme Steven Gerrard de Liverpool qui a signé à Galaxy à Los Angeles.
Oui, Gerrard qui est d'ailleurs arrivé cette semaine à Los Angeles et qui a eu un très bel accueil. Près de 400 clubs affiliés à 57 fédérations nationales vont recevoir Bagassi, une part des bénéfices enregistrés par la FIFA lors de l'organisation du Mondial au Brésil.
Alors, c'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'ECA, l'association européenne des clubs citée par l'AFP. Le montant total de ces versements, issu d'un accord signé en 2008 entre la FIFA et l'ECA, est de 70 millions de dollars. Il concerne 396 clubs afin de reconnaître leur rôle important dans le succès du tournoi. Selon l'ECA, la somme versée à chaque club dépend du nombre de joueurs ayant participé au mondial et de la durée de leur séjour au Brésil l'été dernier. Parmi les clubs, donc, il y a Manchester, Bayern de Munich qui vient en tête et le Real Madrid.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Monsieur Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du 8 janvier 2015. Place au dossier du jour.
Les journaux du monde entier ont rendu hommage à Charlie Hebdo, le journal satirique français qui a subi hier une attaque meurtrière. Pour autant, les caricaturistes sont déterminés à garder le crayon en main. Idriss Fall a joint Fahd Ben Khalif, dessinateur de presse au journal El Watan à Alger.
Je suis encore sous le choc, vraiment, vraiment révolté, indigné, parce que ces dessinateurs-là, ce sont... Avant tout, mes idoles, ce sont des amis. Comme je travaille dans une édition francophone, je me suis inspiré des dessins de Cabu, de Charles, de l'équipe de Charlie Hebdo.
El Watan voudrait publier demain une page spéciale en hommage à Charlie Hebdo.
Oui, là, on travaille sur une page à l'hommage de Charlie Hebdo. On est dessus. D'ici 20 heures, on va voir ce que ça va donner.
En tant que musulman et caricaturiste, que pensez-vous lorsque Charlie Hebdo a reproduit les caricatures du prophète Mohammed?
J'ai rencontré Charles en personne. Je suis musulman, je suis croyant. Je lui ai dit face à face que je n'ai pas aimé les caricatures qu'il a fait sur le prophète. Quand j'ai vu les caricatures aussi, j'étais choqué. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Charles et je lui ai dit que c'était trop osé, c'était provoquant. Mais aller jusqu'à tuer des gens, ce n'est pas normal. Je vous dis ça, je suis musulman, j'ai rencontré Charles à plusieurs reprises. On s'est parlé, mais il fait du mal par rapport à ce qu'il pense. Là, c'est inacceptable.
Pour vous qui êtes en Algérie, l'Algérie a connu une crise avec les islamistes. Qu'est-ce que c'est que travailler avec cette menace au quotidien?
Je tiens à vous informer que moi, je n'ai que 32 ans. Et ça fait 6 ans que je fais du dessin de presse. Donc, je n'ai pas vraiment vécu la décennie noire, la période difficile de l'Algérie. Mais en voyant les images d'hier, les images de l'attaque, ça nous rappelle vraiment ce qui se passait en Algérie durant les années 90, quand on assassinait des élites, des artistes, des journalistes algériens.
Mais aujourd'hui, dans l'exercice de votre métier, est-ce que vous ne sentez pas de pression, des menaces de la part des politiques?
De la part des politiques, personnellement, non, je n'ai jamais eu de problème avec les autorités algériennes, quoique j'ai fait des dessins, disons, un peu osés, surtout juste avant le quatrième mandat, où j'ai fait des dessins dans lesquels j'attaquais le président de la République, j'attaquais son frère, Saïd Bouteflika. Durant cette période-là, vraiment, personnellement, j'ai eu peur. Mais heureusement, rien ne s'est passé après.
Fahd Ben Khalif, dessinateur de presse au journal El Watan à Alger.
Nouveau numéro de Washington Forum. Bonne année 2015 à tous. Nous ferons le point sur le virus Ebola. Un an après son apparition en Guinée, la menace est-elle écartée? La mobilisation internationale est-elle suffisante? Nous en débattrons. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Cap sur la République démocratique du Congo, la scène politique parle encore du récent retour de Moïse Katumbi au Katanga et de la passe d'armes à distance avec le président Kabila. En toile de fond, la présidentielle de 2016, où Joseph Kabila n'a toujours pas dévoilé ses intentions sur ces événements, Nicolas Pinot a recueilli la réaction de Maître Zouindoula Moulegua, ancien porte-parole du président Kabila.
Moïse Katumbi, c'est un citoyen congolais comme tout le monde. D'après ce que j'avais appris, il était en Europe pour des soins médicaux. Il est revenu au Congo et au Congo, nous avons la liberté d'expression, donc... Il a dit ce qu'il voulait, même si la majorité peut-être de la population ou la classe politique congolaise n'est pas très d'accord avec certaines choses qu'il avait dit, mais c'est de son droit de dire ce qu'il veut dire. Je ne suis pas trop surpris qu'il revienne avec un discours où je considère qu'il a parlé comme une personne qui n'est pas responsable.
Est-ce que selon vous, cela cache des ambitions présidentielles pour 2016?
Bon, ça c'est pour lui de le dire. Comme il n'a pas prononcé exactement quelles étaient ses ambitions, c'est pour lui de le dire. Mais je pense que si vous voulez être élu en République démocratique du Congo, vous n'avez pas besoin d'essayer d'irriter tout le monde, si je peux utiliser les mots. Vous savez, faire la politique, c'est pas la démagogie. C'est clair qu'au Congo maintenant, il n'y a qu'une seule voie pour accéder à la présidence de la République, c'est la voie des urnes. Donc, il n'avait qu'à attendre ça. Si c'est ça son ambition, moi je ne sais pas exactement quelles sont ses ambitions.
Aujourd'hui, comment se pose selon vous le débat présidentiel pour 2016? Est-ce que selon vous, le président Kabila doit se prononcer le plus rapidement possible concernant une possible candidature?
Je crois que le président Kabila a un mandat pour le moment. Il a été réélu en 2011. Il a un mandat qui va jusque 2016. Donc, je ne sais pas et je ne vois pas la raison pour laquelle il doit se prononcer, puisqu'il a un travail qu'il doit faire et il le fait correctement. Le président Kabila ne fera pas quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la population congolaise. Et le président Kabila ne peut pas aller contre les intérêts de la population congolaise. Donc, au moment venu, il va prendre sa décision.
Beaucoup d'opposants congolais rêvent d'un scénario à la Burkinabé. Est-ce faisable, selon vous, en République démocratique du Congo?
La première chose que l'opposition doit comprendre est que les contextes la République démocratique du Congo, d'abord, est différent. Nous ne sommes pas le Burkina Faso. Le contexte est différent chez nous et je ne comprends pas pourquoi ils rêvent de ça, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas une raison au pays pour que le pays puisse tomber dans le chaos comme au Burkina Faso. Il n'y a aucune raison pour ça.
Maître Zouindoula Mouligwa avec Nicolas Pino dans les studios de La Voix de l'Amérique, ici à Washington.
Appel à l'aide du Tchad à la communauté internationale et aux partenaires pour faire face à un nouvel afflux de réfugiés, cette fois-ci en provenance du nord-est du Nigeria, région en proie aux attaques des islamistes de Boko Haram. Ce pays accueillait déjà l'an dernier quelque 455 000 réfugiés en provenance du Darfour soudanais et de la République centrafricaine. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Genève William Spindler, chargé de la communication au Haut Commissariat aux réfugiés.
Oui, effectivement, le gouvernement de Tchad a officiellement convoqué les agences des Nations Unies, les membres du corps diplomatique et des autres pour annoncer l'arrivée de plus de 3000 personnes qui ont fui les attaques dans le nord-est du Nigeria le 7 janvier 2015. Le gouvernement a aussi demandé un soutien international pour une intervention d'urgence en appui à la population nouvellement arrivée. Le HCR et des autres organisations des Nations Unies ont envoyé une mission d'urgence à la région de Bagassola et Ngouboua pour évaluer la situation des personnes qui viennent d'arriver et pour donner du soutien à ces réfugiés qui ont quitté le Nigeria.
Apparemment, ces réfugiés arrivent par pirogue ou par bateau. Quel problème cela pose-t-il?
Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains de ces réfugiés sont arrivés par moyen des pirogues et des bateaux en traversant le lac Tchad. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations détaillées. On attend le retour de nos équipes qui sont sur place pour avoir plus d'informations.
Est-ce que le HCR dispose aujourd'hui d'assez de ressources pour faire face à la situation?
Oui, nous avons un bureau au Tchad qui travaille sur la situation. Le Tchad accueille déjà un nombre important de réfugiés du Soudan, de la région de Darfour, et aussi des réfugiés qui viennent de la République centrafricaine. C'est un pays qui a montré une grande générosité aux réfugiés des autres pays africains. Et le Tchad est parmi les 10 pays qui reçoivent le plus important nombre de réfugiés du monde. Et en Afrique, et c'est parmi les 3 pays avec une population de réfugiés très importante, après l'Éthiopie et le Kenya.
William Splinder, chargé de la communication du HCR à Genève.
Impact économique de l'Ebola ici aux États-Unis. Une boutique de l'État de l'Ohio vendant des robes de mariée va fermer définitivement après avoir été visitée par une infirmière chez qui le virus a été plus tard détecté. L'établissement avait été fermé et désinfecté après le passage de l'infirmière, mais cela n'a pas du tout rassuré les clients qui ne viennent plus qu'au compte-gouttes. Timothée Douangamay a joint le docteur Patricia Yepasis-Zembrou, épidémiologiste à Lake Stevens, sur la côte ouest des États-Unis.
Aussi longtemps que le magasin a pris des précautions pour désinfecter les locaux et les articles, le public n'a pas à craindre quoi que ce soit sur le plan transmission, surtout qu'il n'y avait pas eu trop de contacts avec du sang ou bien contact cutané avec d'autres éléments.
On a vu une situation pareille à l'hôpital presbytérien de Dallas qui a soigné un certain nombre de malades de l'Ebola. Les gens ne fréquentaient plus tellement cet hôpital.
Oui, mais il faudrait aussi comprendre que le public, c'est un élément nouveau pour eux. Ils connaissent la grippe, ils connaissent comment le flou se transmet, comment se protéger contre le flou, mais Ebola, c'est tout à fait nouveau aux États-Unis. C'est plus une maladie des pays en voie de développement. Donc, ici, la crainte est justifiée à cause de l'ignorance. Et quand bien même on a pu prendre des précautions pour instruire les gens, les éduquer, c'est difficile. Quelqu'un peut avoir les connaissances, mais ça prend du temps pour que la personne puisse vraiment incorporer ça dans ses habitudes et puis s'assurer que non, je n'ai rien à craindre. C'est juste ce genre d'acteur qui essaie de miner le business et l'opinion publique.
Les États-Unis ont pris un certain nombre de mesures de protection aux frontières. Est-ce que vous pensez que cela a pu un peu atténuer la crainte ici?
Certainement, ça a dû jouer un rôle assez important, surtout que quand quelqu'un a peur, entendre des experts essayer de minimiser la crainte. Donc, je crois que ça a dû servir. Et puis, surtout l'éducation au niveau du public aussi, ça a aidé. Et tous les départements de santé publique ont vraiment mis beaucoup de poids pour essayer de sensibiliser leur population. Et je crois que ça commence à aller.
Voilà, c'était Patricia Yepasis-Zembrou, épidémiologiste à Lake Stevens, sur la côte ouest des États-Unis.
Cette émission touche à sa fin et comme tous les soirs, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Un duo entre Sam Smith et Rihanna. Les fans y croient dur, hein, comme faire après les déclarations du chanteur britannique qui a assuré être au courant d'infos totalement confidentielles à propos du nouvel album de la pop star. Certains imaginent déjà une suite logique à la ballade Stay que nous écoutons ce soir. All along it was a le 8e album de Rihanna est sans conteste le projet le plus attendu de 2015. Celle qui a eu l'habitude de proposer un disque par an n'a rien publié depuis You're Unapologetic, sorti en novembre 2012. Après plus de 2 ans, la popstar est actuellement en studio pour enregistrer 2 albums, comme l'a confirmé David Guetta sur Twitter. Mais voilà, Morgane, c'était Sam Smith et Rihanna dans Stay.
Merci, Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie, Morgane.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde avec la console technique Micha Dubinsky.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.